Paysage vibratoire. L'émission de poésie, un habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio. Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mardi soir et nous sommes toujours très heureux de partager avec vous quelques poésies, des poésies de toutes les époques, de toutes les latitudes. Mais bien sûr pour cette lourde tâche, parce que c'est une lourde tâche certes plaisante, mais je ne peux pas porter tout seul ce poids de cette culture, n'est-ce pas, à vos oreilles, sans mes partenaires et mes complices du Verbe. Ce soir, je reçois Michel Barrault, que je vois d'ailleurs déjà très concentré. On sent qu'un veut en découdre avec ses poèmes. Hein. Et Joël Cosse, bien sûr, c'est monsieur encyclopédie qui n'hésitera bien sûr pas à nous livrer quelques anecdotes ou quelques précisions littéraires. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bien sûr, on commence par quelques haïkus d'automne. On va se mettre d'abord en condition. Ce sont les haïkus d'automne. Le grand jour blanc me dénude l'âme. Feuille morte. Watanabe su'ia. Elle tombe et tombe la feuille de Polonia au rayon du soleil. Takahama Kyoshi. Dénigrer autrui, je me lave l'esprit en écossant mes poids. Ozaki Osei. Monstre, il montre son curon, le potiron, Natsume Soseki. Figue verte, nue, à l'horizon d'un ciel vide, Toyama Shikage. Sur ce pont suspendu, nos vies s'enroulent au sarment de lierre, Matsuo Basho. Allez, on enchaîne avec le premier titre de la soirée. J'ai choisi Francis Cabrel, Répondez-moi.
Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures. Quelques mots pour les grands, même pas des injures, et si quelqu'un les entend, répondez-moi. Répondez-moi, mon cœur a peur d'être emmuré entre vos tours de glace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude et que brille la lune pleine que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas. Et moi, je vois passer vos chiens superbes aux yeux de glace portés sur des coussins que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main. Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de chants d'étoiles et de pluie de jonquilles pour s'abriter aux épaules des filles. Mais la dernière des fées cherche sa baguette magique. Mon ami, le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. Moi, je vis dans ma maison, sans balcon, sans toiture, y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison.
Francis Cabrel, répondez-moi. Mais je ne sais pas si Michel va lui répondre, en tout cas, elle a des choses à nous dire.
Eh bien, pour commencer, je vais vous lire un poème de Robert Desnos, donc quelques petits mots sur lui. Il est très connu, donc beaucoup de gens connaissent sa vie. Il est né à Paris en 1900 et est mort le 8 juin 1945 au camp de Térézine en Tchécoslovaquie, malgré les soins qui lui ont été prodigués. Vers 1919, il fait la rencontre d'André Breton et des surréalistes et il participe avec eux à des séances de sommeil hypnotique et y apparaît vite le plus doué. Néanmoins, en 1930, il se sépare d'André Breton et des surréalistes et il écrit même dans un pamphlet « Le surréalisme est tombé dans le domaine public à la disposition des hérésiaques, des schismatiques et des athées ». Il reste néanmoins fidèle avec quelques-uns d'entre eux comme Paul Éluard et aussi l'ami de Picasso, Miro, Armand Salacrou et bien d'autres. Et c'est l'année où il fait la rencontre de Yuki qui va devenir sa femme. Et c'est aussi l'année où il publie donc le recueil « Corps et biens » publié à la NRF et dont j'ai choisi un poème dans ce recueil « Jamais d'autre que toi ». Jamais d'autre que toi, en dépit des étoiles et des solitudes, en dépit des mutilations d'arbres à la tombée de la nuit. Jamais d'autre que toi ne poursuivra son chemin qui est le mien. Plus tu t'éloignes et plus ton ombre s'agrandit. Jamais d'autre que toi ne saluera la mer à l'aube, quand fatigué et déré, moi, sorti des forêts ténébreuses et des buissons d'ortie, je marcherai vers l'écume. Jamais d'autre que toi ne posera sa main sur mon front et mes yeux. Jamais d'autre que toi, et je nie le mensonge et l'infidélité. Ce navire à l'ancre, tu peux couper sa corde. Jamais d'autre que toi. L'aigle prisonnier dans une cage ronge lentement les barreaux de cuivre vert de grisé. Quelle évasion! C'est le dimanche marqué par le chant des rossignols dans les bois d'un vert tendre. L'ennui des petites filles en présence d'une cage où s'agite un serin, tandis que dans la rue solitaire, le soleil, lentement, déplace sa ligne mince, le trottoir chaud. Nous passerons d'autres lignes. Jamais, jamais d'autre que toi. Et moi, seul, seul comme le lierre fané des jardins de banlieue, seul comme le ver, et toi, jamais d'autre que toi.
Bien, merci Michel. Bon, on enchaîne avec Joël. Un petit mot peut-être sur Desnos?
Ben oui, Desnos, que j'apprécie particulièrement, parce que c'est un déporté, il a fait partie du convoi du 21 juillet 44, et il y en a pas beaucoup qui sont rentrés.
Ouais.
Et il occupait ses compagnons de déportation en leur disant, en lisant les lignes de la main qu'il devait inventer certainement, et en leur prévoyant l'avenir. Petite anecdote, dans ce même convoi, avec mon grand-père. C'est pour ça que je connais bien Desnos.
D'accord.
Et la fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, dit-il à la fin. En fait, la fourmi de 18 mètres, c'est une métaphore de la locomotive qui conduisait le train des déportés. Si on le lit, ce poème de Desnos avec cette idée derrière la tête, il prend une autre dimension.
Bien sûr, oui. Il est dans la métaphore. Eh bien, c'est à toi.
Ah ben moi, je profite de l'émission poétique qui vient fort à propos, parce que la commune du Gard d'Aubin a commémoré le 150e anniversaire de la grève des mineurs d'Aubin qui s'est achevée dans le drame. La troupe a tiré. Il y a eu 19 victimes le 8 octobre 1869. Leur révolte était légitime contre la misère, contre l'exploitation et l'oppression d'un système capitalisme industriel aux abois. Cet événement exemplaire a inspiré à la fois Zola, qui nous a offert son Germinal, et Victor Hugo, qui en a fait un poème. Ce poème que je vais vous lire est gravé dans le marbre du monument qui a été érigé il y a quelques années par la commune d'Aubin sur le plateau des Forges au Gard, à l'endroit précis où s'est déroulée la fusillade. Aubin, quel âge as-tu?
16 ans.
De quel pays es-tu?
D'Aubin.
N'est-ce pas là, dis-moi, qu'on s'est battu?
On ne s'est pas battu. On a tué.
La mine prospérait. Quel était son produit?
La famine.
Oui, je sais, le mineur vit sous terre et n'a rien. Avec la nuit, de plus, il est galérien. Mais toi, fais-tu donc ce travail, jeune fille?
Avec tout mon village et toute ma famille, oui.
Pour chaque hôtée, on me donnait un sou. Mon grand-père était mort du feu grisou. Mon petit frère était boiteux d'un coup de pierre. Nous étions tous mineurs. Lui, mon père, ma mère, moi. L'ouvrage était dur. Le chef n'était pas bon. Comme on manquait de pain, on mâchait du charbon. Aussi, vous le voyez, monsieur, je suis très maigre. Ce qui me fait du tort. Le mineur, c'est le nègre. Hélas, oui. Dans la mine, on descend. On travaille à genoux dans le puits. C'est glissant. Il pleut. Quoi qu'on n'ait pas de ciel, c'est sous l'arche d'un caveau. Bas. Et tant qu'on peut marcher, on marche. Après, on rampe. On est dans une eau noire. Il faut étayer le plafond s'il a quelques défauts. La mort fait un grand bruit quand tout à coup elle entre. C'est comme le tonnerre. On se couche à plat ventre. Ceux qui ne sont pas morts se relèvent. Pas d'air. Chaque sape est un trou dont un homme est un ver. Quand la veine est en long, c'est bien. Quand elle est droite, alors la tâche est rude et la sape est étroite. On sue, on gèle, on tousse, on a chaud, on a froid. On n'est pas sûr si c'est vivant et tout ce qu'on voit. Sitôt qu'on est sous terre, on devient des fantômes. Les pauvres paysans qui vivent sous les chaumes respirent du moins l'air des cieux. On est tout fait. Pourquoi ne pas vous plaindre aussi? Nous l'avons fait. Nous avons demandé, ne croyant pas déplaire, un peu moins de travail, un peu plus de salaire. Et l'on vous a donné quoi? Des coups de fusil. Je m'en souviens, le maître a froncé le sourcil. Mon père est mort frappé d'une balle. Et ta mère, folle. Et tu n'as plus rien ?
Si, j'ai mon petit frère. Il est infirme. Il faut qu'il vive de façon que j'ai mendié. Mais on m'a mise en prison. Je ne sais pas les lois, mais on me les applique. Que fais-tu donc, alors ?
Je suis fille publique.
Voilà, ben, très touchant, hein, je vois que tu étais gagné par l'émotion. Alors moi, ça me touche d'autant plus parce que mon papa était mineur de fond. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans le trou. C'était un soir du Nouvel An, d'ailleurs. Il était de garde parce qu'il était à la sécurité. Alors c'était avec les moyens modernes. Mais quand même avec les moyens modernes...
Soir de Nouvel An, peut-être de Casseville, en 1962
Non, c'était...
Ils ont passé le Nouvel An au fond.
C'était dans les années 70, ils m'avaient amené au fond. Mais j'atteste qu'il faut y descendre dans le trou, malgré les moyens techniques dont on imagine à l'époque. Ouais. D'ailleurs, pour anecdote, mon père avait commencé en chargeant les wagonnets. Il y avait encore des chevaux qui étaient sous terre et qui mouraient en bas. Hein. Voilà, avec toute... voilà, c'était pas germinal, mais malgré la modernité, ben, je peux attester que c'était un rude travail, quoi. Les gueules noires, hein, qui étaient les hommes les plus propres aussi, puisqu'ils étaient obligés de se laver chaque jour. Hein. Voilà, un peu d'humour. Merci, mais petite pause musicale, alors, avec Christophe Maé, qui pose une question. Il est où le bonheur ?
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur, il est là ! Il est là ! Il est là le bonheur, il est là ! Il est là ! J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants. Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là, il est là. C'est une bougie le bonheur, ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut, tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non, il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là. il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là.
Le bonheur, il est là, finalement, oui, à l'écoute de nos programmes sur CFM Radio 90.2. Ben nous, on vous en propose un petit peu de bonheur en vous lisant plusieurs poésies, en faisant quelques recherches autour des poètes. Et moi, je vais vous parler d'Armand Robin. Armand Robin, alors, il est né dans les Côtes d'Armor en 1912. Il est décédé en 61 à Paris. Huitième enfant d'une famille de paysans misérables. Ouais, ce soir, en fait, dans le côté un peu misérable, on avait parlé des pauvres mineurs de Cazeville. Ben là, il est issu d'une famille aussi misérable. Il sera l'élève en cagne de Jean Guéhenno. Il voyage en URSS en 1934 et maîtrisant une vingtaine de langues, il gagne sa vie en rédigeant des rapports d'écoute des radios étrangères. Il traduit le poète hongrois Andr Hadi, les Russes Blok, Essien, Mayakovsky, Pasternak, mais aussi Omar Khayyam et Edgar Poe, des auteurs chinois, arabes, suédois, néerlandais. Alors, un de ses poèmes, il est où le bonheur? Ben moi, enfin, il vous propose le programme en quelques siècles. Programme en quelques siècles. On supprimera la foi au nom de la lumière, puis on supprimera la lumière. On supprimera l'âme au nom de la raison, puis on supprimera la raison. On supprimera la charité au nom de la justice, puis on supprimera la justice. On supprimera l'amour au nom de la fraternité, puis on supprimera la fraternité. On supprimera l'esprit de vérité au nom de l'esprit critique, puis on supprimera l'esprit critique. On supprimera le sens du mot au nom du sens des mots. Puis on supprimera le sens des mots. On supprimera le sublime au nom de l'art. Puis on supprimera l'art. On supprimera les écrits au nom des commentaires. Puis on supprimera les commentaires. On supprimera le saint au nom du génie. Puis on supprimera le génie. On supprimera le prophète au nom du poète, puis on supprimera le poète. On supprimera l'esprit au nom de la matière, puis on supprimera la matière. Au nom de rien, on supprimera l'homme, on supprimera le nom de l'homme, il n'y aura plus de nom, nous y sommes. C'est à toi, Michel.
Oui, Armand Robin, deux mots quand même avant sur sa mort.
Oui, je t'en prie.
Il a été retrouvé mort dans un commissariat. Il faut dire que pendant l'occupation, comme il connaissait des quantités de langues, je crois qu'il la connaissait beaucoup plus que 20, pas loin de 80.
D'accord.
Donc il écoutait toutes les nuits les ondes courtes et il retranscrivait au matin les informations. Et il a été accusé de collaboration.
Évidemment.
Parce qu'il publiait ça le matin et que ça pouvait servir aussi bien aux occupants.
Donc sa passion lui a été fatale.
Voilà. Et donc il a été accusé par les résistants. Donc. Mais il n'a pas supporté. Il est devenu un petit peu malade. Quoi. Il a trouvé que c'était inadmissible alors qu'il en avait vécu pas mal d'autres. Il s'est inscrit à la Fédération anarchiste. Avec Georges Brassens.
D'accord.
Voilà.
Très belle anecdote.
Oui.
Merci pour ces renseignements. Non, mais c'est un puissant fond de connaissances, cet homme. À toi.
Eh bien, je pensais vous lire un poème d'anonyme. Et puis, dans un recueil que j'ai trouvé un poème qui est de saison, d'Émile Verhaeren. Quelques notes sur lui. Il est né en 1855 à Saint-Amand-sur-l'Escaut en Belgique et est mort en 1916 à Rouen. C'est un poète belge flamand, mais d'expression française. Jeune, il fréquenta le salon d'Edmond Picard où il put rencontrer des écrivains et artistes d'avant-garde. Il décida à ce moment-là d'abandonner la carrière juridique pour devenir écrivain. En 1883, il publia son premier recueil de poèmes réaliste-naturaliste, Les Flamandes, consacré à son pays natal. Il travailla à rendre dans ses poèmes l'atmosphère de la grande ville et son opposé, la vie à la campagne. Ses poèmes le rendirent célèbre et son œuvre fut traduite et commentée dans le monde entier. Ce soir, j'ai choisi un poème de saison paru dans un recueil, La Poèmerie, une anthologie de poèmes pour enfants sélectionnée par Armand Gault. Il s'intitule « Déclin ». Matin frileux, le temps se vêt de brume. Le vent retrousse au cou des pigeons bleus les plumes. La poule appelle le pépillant fretin de ses poussins sous l'aile. Panache au clair et glaive nu, les lansquenets des girouettes pirouettent. L'air est rugueux et cru, un chat près du foyer se pelotonne. Et tout à coup, au coin du bois résonne, monotone et discord, l'appel tintamarrant des cors d'automne. C'est extrait du recueil « Toute la Flandre, les Pleunes », c'est paru au Mercure de France.
Merci, merci beaucoup.
Une petite remarque.
Bien sûr, mais oui. Je t'en prie, tu es là pour ça.
Émile Verhaerin, on étudiait ça à l'école primaire.
Oui.
Moi, j'ai souvenir d'un poème extrait des villes tentaculaires, mais il m'est resté donc le nom de l'auteur, Émile Verhaerin, et il m'est resté un verbe que j'ai longtemps eu au fond de ma tête, qui s'appelle « assujettir ». Il l'avait utilisé, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Voilà, depuis j'ai essayé de comprendre.
Tu as certainement compris. D'ailleurs, nous allons t'écouter.
Oui, alors on va revenir à la poésie plus classique, et rester nostalgique un peu, avec Arthur Rimbaud. Mmh. Le buffet.
Ah oui.
C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes et d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires et tu voudrais compter tes contes et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires.
Merci beaucoup. Un fouillis de vieille vieillerie. J'aime beaucoup l'expression. Ouais.
Je me souviens, le professeur, il avait insisté là-dessus pour dire que la répétition apportait de la richesse. On avait étudié ça en cinquième.
Bien, mais moi je terminerai avec Le Grand Schisme de Georges Henin. Attention au trésor que nul ne réclame, à l'écolier patient et taciturne, oublié depuis toujours dans un coin sombre. À l'écolier qui brusque les rêves, qui adoucit la vie, qui forge une femme comme on gré un navire, qui voit au-delà du mur de clôture, au-delà des monts, au-delà des mers, qui serait déjà au bout du monde, si nous n'étions là pour lui parler de reflux. Attention à cette frange de folie pure, au front d'une châtelaine, et au froid des colonnes en marge de ses tempes, et à son cri où la nuit dépose la fatigue des oiseaux. Attention à cette végétation éhontée qui s'interpose entre les êtres et qui leur donne enfin le droit de se dire séparés. Ainsi s'achève notre soirée. Merci à tous les deux. Merci Michel, merci Joël. Pour toutes tes précisions, c'est toujours très, très enrichissant. Merci aussi à Lucas qui est à la sonorisation et qui assume après... mardi après mardi, notre présence et notre poésie. Et nous sommes très certains qu'il s'enrichit en notre contact. Merci à lui. On va se quitter avec un groupe nordique, Sigur Rós. Je ne vous dirai pas le titre car il est en langue nordique imprononçable. C'est de la musique planante, d'atmosphère. Voilà, pour terminer notre soirée, ça tombe bien. Et nous vous disons bien sûr à la semaine prochaine. Bye bye. Paysage vibratoire. L'émission de poésie un habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio.